faccio un dettaglio.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e numéro de C'est la faute à la
Manette.
Merci, c'est bien, vous suivez, c'est super. Ça va être une bonne soirée encore. Parce que le jeu vidéo est notre passion et qu'il est de notre devoir de vous informer et de vous faire partager nos connaissances, j'ai de nouveau fait appel à ma dream team de chroniqueurs. À ma droite, le technicien de l'émission qui ce soir va galérer un petit peu, je pense.
Ouais, un peu.
C'est grâce à lui si vous pouvez avoir de super jingles pas toujours bien calés. C'est Guillaume. Salut Guillaume, comment
là,
ça va?
Là, ça va être encore moins calé que d'habitude, mais ça va sinon.
Ouais, ça va. T'es bien là. C'est...
Ouais, okay. Je galère.
En face. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Non, c'est pas grave.
Tu me déranges déjà, ça commence mal.
Ça commence
super mal. En face de moi, le pessiste convaincu, celui qui échangerait volontiers femme et enfant contre une nuit avec Chris Robert. C'est Tom. Salut Tom.
Heureusement que je n'ai pas d'enfant. Ça va bien et toi?
Tu peux déjà échanger ta femme.
Oui, c'est vrai.
Hein? Ok, c'est bien. Et en diagonale, le spécialiste des jeux de combat, de jeux excentriques, l'homme qui défend souvent l'indéfendable de par sa barbe. Salut Ferdi, ça va?
Salut, ça va. Et qui attaque souvent aussi, c'est que tout le monde défend.
D'accord. Voilà. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'on a la radio, bien sûr, et on a des groupies aujourd'hui. Qui sont à côté, qui ne parlent pas, qui sont un peu timides, je crois, et qui nous aideront peut-être pour le quiz de tout à l'heure. Oui,
tout à fait.
Elles m'ont dit oui, exactement.
D'accord.
Alors, qui dit rentrée des classes dit beaucoup de temps à perdre. C'est pourquoi on va vous parler d'une série qui vous prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à finir dans son ensemble, puisqu'il y a quand même 4 épisodes et demi, hein. C'est à peu près ça. Et qui n'est pas prise de tête, du coup, c'est Saints Row.
Ouais.
Vous connaissez tous, ça va? Vous,
oui.
Vous avez lu
oui,
le titre
oui,
de l'émission
oui.
avant de venir, c'est bien?
Presque.
Ok.
Heureusement qu'on y a joué.
Voilà, on a reçu le mémo.
C'est déjà bien, impeccable. Alors, de l'époque où le jeu se prenait encore au sérieux et se voyait en concurrent de GTA jusqu'à celui où vous combattez à coups de God Miché dans l'espace sur une musique de Tina Turner, on fera tout l'historique de la série. Et bien sûr, on vous conseillera les épisodes qui, pour nous, sont les meilleurs. Il y aura peut-être un professeur Gorpheus ce soir. On va essayer de le caler, d'avoir le temps de le faire revenir.
Un mois pour venir au studio quand même. Il faut vraiment qu'on lui achète un fauteuil.
Il habite pas loin. Il se déplace lentement.
Et exceptionnellement, on aura un test d'un jeu où 3 personnes sur 4 l'ont fait.
Moi j'ai testé aussi. Donc,
4 personnes sur 4, c'est incroyable.
C'est une première.
C'est la rentrée. Je pense qu'on peut nous applaudir.
On a fait notre travail pour la première fois.
C'est incroyable.
Ça nous a pris 21 émissions.
Une émission, c'est bien. C'est parti pour 19 émissions de Land juste après. Hein, comme d'habitude. Voilà.
Pas exagéré. Ouais.
Et on va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps. On va commencer avec des news. Qui sait. Tu avais un jingle
Ouais, mais je le lance.
Ce générique est insupportable.
Pas du tout long.
Alors, qui c'est qui veut commencer les news? On va commencer par... Allez, Ferdi, t'as l'air bon là.
Call of Duty 2 est rétrocompatible Xbox One et tourne à 60 FPS contrairement à la version Xbox 360.
Alors, qui s'en fout?
Pas mal, moi je m'en fous pas mal.
Pareil, je m'en fous pas mal.
D'accord. Tu pouvais le faire tourner sur PC il y a déjà bien longtemps, sur 60 FPS, donc bon.
Non mais ça veut dire que la Xbox One est peut-être beaucoup plus puissante qu'on l'imaginait, elle a une puce secrète.
Et t'imagines que moi,
elle est plus puissante qu'une Xbox One.
T'imagines moi que ma One arrive à laguer en regardant un film sur Netflix, hein, donc...
pas mal.
Ah, pas mal.
C'est
pas
la
mal.
Tristesse. Hein.
Intéressant. J'avoue que c'est intéressant. Bon, on va dire qu'on s'en fout, hein. Ouais. Tom.
Alors, moi j'ai comme news un remake de GoldenEye 007. Donc le 007 que tout le monde connaît de la N64 aurait été prévu sur Xbox Live Arcade avant d'être annulé.
Voilà, alors il n'a pas seulement été prévu, on a vu des vidéos entières où le jeu était remaké.
Il était prévu.
Façon Perfect Dark, hein, d'ailleurs.
Exactement. Il avait l'air meilleur que celui sur Wii, quoi.
Il avait l'air meilleur que celui sur Wii et c'était surtout le remake d'un jeu culte, hein, tout simplement.
Ouais, mais un jeu culte, mais est-ce qu'on peut se rappeler de la maniabilité de l'époque aussi?
On peut se rappeler des sièges qui explosent quand on tire
dessus.
Voilà,
des sièges qui explosent, par contre, tout explosé.
Il y a une version PC qui existe, qui est faite par des fans et qui marche.
D'accord.
Voilà, donc pour ceux qui ont envie de se faire qu'en multijoueur.
Toujours meilleur que la version
Wii. Qui est super cool.
D'accord.
Est-ce qu'elle a été interdite comme les bons jeux en ce moment?
Non, comme Pokémon,
comme Metroid.
Ouais, voilà.
Ils sont amusés en fait, ils ont fait c'est le même jeu, mais ils ont en fait enlevé les noms des bondes et tout ça. Ils ont, tu sais, mais genre c'est plus bond, c'est band ou barand ou des trucs.
D'accord.
Comme ça,
c'est comme quand Nintendo il fait des jeux en fait.
Ouais. Mais si c'est pas interdit, ça m'intéresse pas.
C'est le Silver Gun au lieu du Golden Gun, etc.
Vivre dangereusement.
Alors j'ai une news très intéressante. La double authentification sur PS4 est désormais disponible, donc téléphone plus code, réduisant ainsi de 100 à 98% vos chances de vous faire pirater.
Alors moi ça m'intéresse parce que ces temps-ci, je reçois au moins une fois tous les deux jours un code me disant on voudrait changer votre mot de passe PlayStation Network. Cliquez sur ce lien. Je pense que quelqu'un essaye activement de me hacker.
J'ai le même. Hein, beaucoup d'utilisateurs de PlayStation.
Steam le faisait déjà, Battle.net aussi. Donc il est temps que les consoles le fassent aussi.
D'accord.
Parce que quand t'as plein de jeux d'installer sur ton compte Xbox ou PlayStation. Mais...
Je l'ai essayé, ça marche pas mal.
Surtout avec le compte PlayStation qui est valide depuis.
Pour une fois qu'ils font un truc online
qui
marche,
ça fonctionne.
Qui est valide depuis PSP. Tu perdrais tes jeux PSP, PS3, PS4. Ça fait quand même pas mal.
C'est ça, pareil pour Microsoft.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle
aussi, une bonne
en soi.
Oui, oui.
Ça serait juste le temps qu'ils le fassent, quoi.
Alors Guillaume.
Alors moi, ma news, c'est du coup c'est une compilation de Resident Evil en boîte sur PS4 qui va arriver au Japon. Il y aura les épisodes 0 et 1 qui seront sur un CD plus une OST et les épisodes 4, 5 et 6 seront de simples codes histoire de pas pouvoir le revendre facilement, bien entendu.
C'est une vraie honte.
Je pense que c'est une Capcomade.
C'est une Capcomade.
Ça me rappelle ma collector de Street Fighter.
Oh là là.
La collector des 25 ans, c'est la Capcomade.
Ils auraient pu des codes, mais
et puis ils auraient pu tout mettre sur un CD, quoi.
Faites un Home Bundle, quoi.
Bah sur un Blu-ray, ouais, c'est sûr. Maintenant.
Je crois qu'il y a eu un Capcom Bundle d'ailleurs il y a pas longtemps.
Ouais, mais
qui était pas mal.
Des codes utilisables sur des comptes US.
Oui, oui, ça je m'en souviens, j'ai failli me faire avoir d'ailleurs.
Ouais, les comptes PAL, c'est trop dur pour eux.
Ouais.
Ferdi.
Le PlayStation Now arrive sur PC.
Bah c'est bien.
Est-ce que vous êtes content, hein?
Bah moi,
vous êtes super content.
J'ai vu un super troll sur 9gag.
Alors le PS Now, on rappelle, c'est les jeux à la demande en fait sur PlayStation 4.
Ok.
Tu peux jouer à des jeux PS3. Enfin voilà, c'est un peu.
C'est pour streamer en fait sur
c'est
PC.
C'est le XBLA quoi.
C'est du stream.
Ah c'est le stream.
Tu branches une clé USB.
C'est comme OnLive à l'époque.
Ok ok.
Du coup tu peux enfin jouer à des jeux PlayStation avec une manette de Xbox.
Ok.
Ils seront enfin jouables du coup.
Ouais. Voilà.
Une bonne
manette. On pourra jouer à Street Fighter 5.
Voilà.
Au pire, tu joues sur PC.
Oui, ça marche aussi.
Alors, une news particulièrement calibrée pour toi, Tom.
Oui, alors, si j'arrive à la lire, le niveau 110 de World of Warcraft Legion, donc la dernière extension, a été atteint en 5h28 par un joueur pro, qui malheureusement n'est pas moi.
Et ça aurait pu être toi. Toi, tu l'as fait en 6h12.
Moi, j'ai mis 6h12 pour le faire. Non, en fait, malheureusement, mes chers auditeurs, je crois que je ne joue pas à World of Warcraft. Mais effectivement, c'est toujours les statistiques que j'aime le plus quand il y a un nouveau World of Warcraft qui sort, c'est de savoir qui a été le plus acharné à farmer un seul monstre.
Et ben voilà, 5h28.
L'extension la moins rentable, voilà.
Les sangliers dans la jungle, l'épisode de South Park, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà,
c'était génial cet épisode.
Voilà, après, c'est combien une extension? C'est 40 euros, je crois.
C'est 40 euros,
ouais. 40 euros, ça fait quand même moins cher pour plus de durée de vie que certains jeux.
Lego Dimension.
Que 1886, The Order.
Oui, voilà.
Quelqu'un s'en souvient.
Et oui. Avec surtout plus de gameplay.
Oui, plus de gameplay, effectivement. Une news qui va faire plaisir à Guillaume, une Assassin's Creed Ezio Collection, avec le 2 Brotherhood, des révélations en 1080p, avec 30 FPS quand même, faut pas déconner.
Au moins.
Avec tous les DLC, les deux films d'animation pour seulement 70 euros, t'as vu ?
Il est à préciser, je me suis renseigné, c'est normal qu'il tourne en 30 FPS parce qu'il y a une amélioration des graphismes. C'est pas juste les jeux qui tournent en 1080p.
Ils ont rajouté quelques touffes d'herbe de ce qu'on
des
m'a
poules.
Dit.
Donc c'est quand même la honte sur 20, 30 FPS sur Xbox One et PS4.
Et du foin, faut le faire, quoi. Du foin en haute définition dans les charrettes.
Alors que tu vois, Unity, il avait quelques baisses de framerate, mais il était magnifique, quoi. Là, on va se retourner avec des jeux moches, enfin, qui ont mal vieilli,
Ubisoft,
en 30 FPS.
Il paraît que The Game, donc l'Escape Game à Paris, qui ont une salle Assassin's Creed, la salle en elle-même tourne seulement à 30 FPS.
Et puis il y a des glitches et tout, tu rentres dans le mur de temps en temps.
Ils ont vraiment refait.
Pour avoir la clé à la fin, t'es obligé de payer.
Si tu
peux pas finir.
Guillaume.
Alors, Kingdom Hearts 3 a disparu du site Xbox Japon. Square Enix, au vu des 3645 exemplaires vendus de la machine depuis janvier au Japon, a peut-être décidé de ne pas sortir sa version qu'aux USA et en Europe.
Et bah c'était prévisible,
les Japonais.
Moi, dernière fois, ils ont vendu une Xbox One au Japon.
Une Xbox 360, je crois.
C'était une 360.
C'était une 360.
Alors c'était Zero One, je crois.
Ouais, voilà.
Non, le pire, c'est
vu qu'il y a les chiffres de vente toutes les semaines, sur une semaine, il y avait une Xbox 360. Un petit Japonais qui s'est rendu dans
zéro.
C'était magnifique. Il mérite, vu comment ils traitent les Japonais.
Je pense aussi. Je pense qu'on fera une émission spéciale bordel Xbox au Japon.
Spéciale qui n'aime pas qui.
Ferdi.
Alors la version boîte du dernier Hitman en kit arrive le 31 janvier 2017. C'est cool, comme ça je le ferai.
Et en plus, il paraît qu'il est plutôt
paraît
bon.
Que c'est bien. Ouais, j'ai fait le premier épisode.
Ouais, il est comment alors?
Il est très cool.
Chiant les jeux épisodiques, c'est bien pour des Telltale ou des Life is Strange.
C'est bien pour les Hitman.
Mais pour un Hitman.
Hitman, non, c'est vrai, j'aime pas trop le principe. Ça passe.
À la base, Hitman, c'était ça. C'était différentes missions dans différents lieux. C'est absolument chiant comme mode d'histoire.
Mais
moi, ça me gênait, moi, mais je m'en fous, je vais attendre.
Cette façon de faire payer, en fait, c'est ça qui est triste.
Moi, je trouve ça pas mal. Je veux dire, ça permet au moins d'avoir un jeu qui, s'il marche pas, ils peuvent arrêter avant la fin et voilà. Et pas trop dépenser.
En plus, les missions sont cool, les décors sont vachement sympas.
Toi, tu dépenses ce que tu veux après.
C'est pas dégueu. Je veux dire, si tout le monde dit que la mission 4 elle est à chier, t'achètes pas la mission 4.
Effectivement.
Moi, je trouve ça. Souvent, si tu fais le 1, après, souvent, t'achètes le Season Pass parce que t'es pas.
Pas sûr, parce que moi, je trouve que c'est plutôt justement une bonne façon de vendre les jeux.
Ah oui, comme ça, tu dépenses peu de temps en
puisqu'en
temps.
Puisqu'en plus, c'est des missions séparées. Je veux dire,
ton budget.
Voilà, c'est pas comme un Telltale où tu.
T'as pas le lien de scénario, donc c'est cool, c'est vraiment les missions d'Hitman.
Oui, c'est vrai que c'est des missions uniques.
Moi, par exemple.
Comme tous les Hitman ont été depuis très longtemps, c'était des missions, tu changes de décor, un vague lien scénaristique.
Et je trouve que c'est un truc épisodique pas dégueu, parce que exemple, moi, Life is Strange, j'ai arrêté d'y jouer parce que pour l'instant, l'épisode 3 m'insupporte. Et j'arrive pas à me dire, faut que je fasse l'épisode 3
forces,
parce que le 4 et le 5 sont bien et que tout le monde me le dit. Mais j'ai pas envie de faire le 3 avant.
D'accord.
Alors que là, si je veux ne pas faire une mission, je peux juste pas l'acheter.
Voilà.
Donc moi, je trouve ça pas mal.
Ok. Alors, comme tu as la parole, je te laisse enchaîner.
Oui. Alors, nous en étions à. Ah oui, une version donc, qui serait simple de Pokémon Go est en cours de développement par un petit développeur indépendant sur VMU.
Alors, on rappelle ce que c'est le VMU. Le VMU, c'est la carte mémoire de la Dreamcast, qui était une petite carte mémoire avec une croix directionnelle et deux boutons.
Et un écran à cristaux
liquide. Et un petit écran à cristaux liquide plus petit que votre Nokia 3310.
C'est la Wii U avant l'heure.
C'est la Wii U avant l'heure, exactement.
Ouais,
et c'est plus élaboré en plus.
Et tu pouvais t'en servir pour jouer à des jeux. Genre, il y avait Godzilla, je m'en souviens. Tu pouvais élever ton petit Godzilla comme un Tamagotchi, etc.
Stylé.
Ouais, c'était stylé.
Et c'est là qu'on se dit que le chômage, c'est vraiment moche quand même. Bref, on en était où donc? Ah oui, Gran Turismo Sport s'est reporté à une date interminée, sans
comme
blague.
Comme tous les jeux Gran Turismo, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est. Il n'y a pas de date dessus.
Il n'y a pas de date, bien sûr.
Il n'y en a jamais eu sur les Gran Turismo. Donc
si, dernier, je crois, il a réussi à sortir, genre 2 ans après l'avant-dernier.
C'est vrai que le
l'avant-dernier avait mis 6 ans à sortir, mais le dernier avait mis peu de temps.
Gran Turismo 6, plus personne l'attendait. Il est sorti un jour, je l'ai vu en magasin, je vais merde.
Bah ouais, alors
c'est Sébastien, Gran Turismo.
Non, c'était Gran Turismo 5 qui était attendu parce qu'il y avait Gran Turismo 5 Prologue.
Ouais, c'était le 5, ouais.
Moi, le 5. Et après le 6, il est arrivé 2 ans après, rapidement.
Pour le coup, coup de maître de Microsoft qui a réussi à sortir une. une licence de jeu de course automobile qui marche mieux que Gran Turismo, alors qu'ils sont partis de rien. Quoi.
Et c'est vrai, Forza, et que Gran Turismo devient très bon.
C'est bien meilleur que Gran Turismo.
Et que du coup, ils ont bien joué, je pense, en faisant une série vraiment, donc Forza normal pour les puristes et Forza Horizon pour les kékés comme moi.
Là, Gran Turismo s'y met maintenant avec Sports, en fait, au final.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Mais voilà, on va encore attendre un petit moment, à mon avis. Une dernière news, qui est-ce qui veut la faire?
Sega est toujours déterminé à faire un Shenmue HD, mais a quand même un peu la flemme de devoir sortir et d'investir un peu dans un bon jeu.
J'ai une solution pour eux, ils pourraient demander l'argent aux joueurs et quand même récolter les recettes.
C'est original, ça.
Ce serait le mieux, non?
S'ils faisaient un Kickstarter sans contrepartie, en fait, ils demandent juste de l'argent, ils font le jeu et après les gens ils achètent le jeu.
Le pire, c'est qu'on s'en fout de faire une version HD, balancer le jeu tel qu'il est de la Dreamcast, balancer le sur le Xbox Live et le PlayStation Network et puis.
Voilà,
mais c'est pas dans la version PlayStation qu'il y a le 1 aussi? Dans la version PlayStation du 2, il n'y a pas le 1?
Non, c'est la version Xbox.
Non, il y a une version Xbox.
Pardon, oui, non, je voulais. Ah oui, c'est un film.
En fait, c'est un film résumé avec toutes les petites cinématiques bout à bout.
Ouais, donc je vois pas pourquoi ils s'emmerdent à essayer de faire autre chose. Balancez-les comme ça, il n'y a pas de pratique.
Balancez la version Xbox, mettez le 1 comme ça et tout le monde sera content.
Et tout le monde sera content, il n'y a pas de travail à faire.
De toute façon, les gens ne l'achèteront pas.
Ils vont le faire quand il y aura le 3 qui va commencer à sortir. Ils vont dire, ah voilà, les épisodes, vous achetez la grosse édition collector avec tous les trucs, une statue et un bout de
bison. D'ailleurs, on peut noter que le jeu a complètement disparu en fait depuis le 3.
L'édition collector de Shenmue 3, le blouson du héros.
Ouais, mais là, t'as dit
c'est pas la collector.
C'est un des paliers.
Il y a un seul blouson sur le palier à genre 150 000 balles. Avoir le vrai blouson que le dev avait présenté à l'époque.
T'as des gachapons et puis t'as une figurine et tout. 150 000 balles, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup.
C'est rentable.
Moi, j'avais une dernière news quand même aussi. C'est pour rappeler que demain, il y a un événement PlayStation. À 21h heure française.
PlayStation Meeting, c'est ça.
Ouais, et que Rockstar risque d'être présent avec Red Dead Redemption.
Oui, voilà, donc ça serait
c'est
bien.
C'est une news un peu intéressante, je pense. Parce qu'on va tous gis dans notre pantalon si Red Dead Redemption 2 est annoncé.
Avec le 1 sur PC.
Tous les PCistes s'en souviennent.
Le 1 sur PC.
Meilleur jeu PC.
Le 1 sur PC, ouais.
Le 1 sur PC, faites pas chier.
Oh, ce serait bon.
Et bah, du coup, c'était la dernière news.
Ouais.
Est-ce qu'on passerait pas à un petit test?
Ouais, d'un test qu'on a tous joué, donc c'est bon.
Trop bien.
Alors j'ai une question quand même. Qui l'a fini?
Pas moi.
Ok.
Pas moi.
11h de jeu.
Pas moi non plus.
On te laisse balancer le jingle et puis on en parle juste après. Alors, pour ce premier test de la rentrée, on va vous parler du jeu de la rentrée, ça tombe très bien, qui est Deus Ex
Mankind Divided,
exactement. Alors, on y a tout joué, bizarrement, je pensais pas que ça allait arriver un jour.
Ça procure des sentiments étranges.
C'est un Deus Ex, donc voilà, c'est...
Alors, on va commencer par les choses d'usage. C'est sorti sur Xbox One, PS4, PC.
Et pas Wii U,
c'est normal.
Étrange.
C'est...
Une fois de plus.
C'est sorti, je crois, le...
C'est fin... sorti fin août.
Fin août. 30 août, exactement. Voilà.
Comme le dernier aussi était sorti fin août, je me rappelle.
Ça vaut une cinquantaine d'euros. Et on va commencer. Tom, dis-nous ce que tu en as pensé.
Alors,
pour l'instant.
Pour l'instant, donc, petit résumé de mon expérience. Je dois en être à une huitaine d'heures de jeu, donc pas beaucoup. Ouais. J'ai juste testé le jeu et pour l'instant, c'est assez cliché. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait deux, trois petits trucs qui sont de l'ordre du sens du détail que j'ai bien aimé. Par exemple, en lançant le jeu, on peut choisir son mode de contrôle. Est-ce qu'on veut un mode de contrôle qui est spécifique à Mankind Divided, ou est-ce qu'on veut utiliser celui de Human Revolution, celui d'avant, comme ça on est déjà habitué. Ça, j'ai beaucoup aimé.
Il proposait aussi un mode FPS.
Voilà, j'ai beaucoup aimé que justement il y ait des modes de jeu différents. Les options sont assez fournies avec des explications sur quoi qui fait quoi. Donc vraiment pas mal de choses qui font vraiment plaisir à voir. Après, niveau pur jeu, pour l'instant, pour moi, c'est du Human Revolution, donc c'est vraiment la suite. Quasiment la même chose. Et le scénario m'a l'air un petit peu en deçà, pour l'instant, de Human Revolution. Après, c'est un pour l'instant, j'ai lu à peu près partout que le scénario montait en puissance. Ouais. Mais de mon côté, pour l'instant, c'est pas encore ça.
Bah moi, j'aimais bien l'hélicoptère avec une grosse pile.
Oui.
Au début.
Oui, oui.
Tout le monde l'a fait.
C'est tellement classe.
Alors, pour l'explication, il y a une mission d'entraînement où à la fin, vous devez désactiver un hélicoptère. Donc, je me suis dit, je vais casser. Non, il ouvre une trappe, il sort une grosse pile et l'hélicoptère.
L'hélicoptère, ça.
Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais c'était très sympa.
Bah, surtout, tu cherches comment l'arrêter. Là, tu vois le bouton genre E activé. Ouais. Merde.
Là, j'en revenais pas. Ferdi.
Moi, j'ai joué chez un ami, donc moi, je suis tombé amoureux en fait de la ville de Prague, en fait, du hub principal du jeu.
Elle est classe
parce qu'il y a une direction artistique énorme. Il y a énormément de détails, mais alors énormément, c'est-à-dire que c'est rempli de petits trucs, les passants, les pubs, les fausses affiches, les indices. Et ce qui est bien aussi, c'est un défaut que j'avais moi au précédent Deus Ex, parce que moi j'ai joué au tout premier sur PC, que j'adore, qui permettait une liberté d'action. Et en fait, Révolution, il y avait un truc, c'était que si on voulait jouer full infiltration et full non létal, au bout d'un moment, t'étais puni par le jeu avec les boss, avec certains passages.
Alors, ce qui a quand même été réglé par la version Director's Cut.
Oui, mais bon.
Pas forcément, non.
Pas tout, il y a des boss.
Boss, c'est où je suis obligé de leur péter la gueule.
Alors, je suis quasi sûr que dans la Director's Cut.
Écoute, non, j'ai joué, il y a encore des problèmes.
Dans Human Revolution, on était obligé de tuer à un moment.
Non, mais dans la Director's Cut, on parle.
Ouais, la Director's Cut. Je suis quasi sûr qu'ils ont rajouté une façon de. En tout cas.
Non, ils devaient, mais en final, la Director's Cut, ce qui apporte surtout, c'est les commentaires des développeurs.
Oui, commentaire des développeurs et New Game Plus.
Ouais,
voilà,
New Game
et donc
Plus.
Là, tu peux faire en tout non létal et en full infiltration et ça me.
Et ça, c'est bien.
Bah, c'est bien parce que t'as le choix. Tu peux le faire en full bourrin, en mélanger d'autres, mais tu veux vraiment le faire en non létal avec le putain de taser et ça, voilà, ça.
Alors,
c'est des.
Moi, je trouve que par contre, malheureusement, je trouve l'IA un peu mongole.
Alors, ça dépend.
Ça dépend des moments.
Pour la tirer, elle est complètement mongole, mais elle peut réveiller ses alliés et ça, c'est cool.
Ouais, mais par exemple.
C'était déjà le cas dans le premier.
Oh, un corps, elle fait. Bah attends, je vais réveiller mon pote et on va te défoncer la gueule.
Mais ça, moi, ça m'a un petit peu embêté. Ce qui m'a un petit peu embêté là par exemple, c'est que là j'y ai joué donc c'est genre cet après-midi quoi. Je dois infiltrer une sorte de banque de données et en bon joueur de Deus Ex, j'ai mis tout en hacking. Oui, et donc je cherche le poste de sécurité que j'atteins par un conduit de ventilation. Donc pour l'instant c'est du Deus Ex très classique. Ouais. Et donc il y a des vitres avec d'autres gardes de l'autre côté de ces vitres. Et le jeu ne m'a pas du tout puni pour avoir jeté une grenade à gaz dans ce dans ce local fermé et d'avoir voilà du coup assommé les trois gardes qui était à la sécurité et genre voilà je suppose que leurs collègues ont dû la voir la pièce se remplir d'un gaz verdâtre et se sont dit que c'était normal donc je trouve que l'IA est vraiment perfectible sur pas mal de choses.
Alors pour vous donner une idée un petit peu de la diversité du jeu, on a une mission au tout début où un garde vous bloque le passage et vous dit voilà pour passer il faut que t'achètes un pass spécial qui est pour les augmentés parce que les augmentés sont opprimés un petit peu dans.
Alors les augmentés c'est ceux qui ont subi des améliorations c'est de leur ça. Corps.
On va éviter d'expliquer pourquoi pour éviter de spoiler.
Voilà non enfin tout ça pour dire qu'il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous payez le mec, soit vous essayez de lui péter la gueule, ça peut marcher. Soit vous faites tout un détour alors d'une mission qui aurait pu durer 3 minutes, dure finalement 1 heure et demie, parce que vous découvrez quelque chose d'autre en allant infiltrer un bâtiment, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait un peu la diversité.
Moi, je ne me rappelle même pas d'avoir fait ça, en fait, c'est ça le problème.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, raconte-nous ton expérience, Guillaume, du coup.
Alors, moi, du coup, je viens de regarder sur l'appli Deus Ex, parce que quand vous jouez, il y a une appli Deus Ex.
Ouais.
Je suis à 45% d'histoire complétée.
D'accord. Donc, t'es le plus avancé de nous tous. Hein,
j'ai tué personne. J'ai eu des boss que je n'ai pas tués juste en leur parlant. J'ai réussi à les convaincre de faire certaines choses.
C'est tellement cool.
Donc ça, c'est vraiment cool par rapport à Human Revolution qui frustrait à ce niveau-là parce que quand t'avais que du stuff qui endormait,
tu te fais dans le caca.
voilà, par exemple. Et là, ouais, pour l'instant, en fait, c'est ce que j'aurais aimé que ce soit Human Revolution. Autant dans une partie gameplay, c'est-à-dire déjà la fluidité des déplacements de Jensen par rapport à Human Revolution, et même dans la direction artistique, qui est Human Revolution, était beaucoup trop jaune. Donc. Que je trouvais là, c'est toujours jaune, hein, c'est
3 millipoulins.
Mais
3
beaucoup moins. C'est bien. Mais beaucoup moins, et du coup, ça, c'est super agréable à voir, et c'est vrai que l'environnement est vachement grand. Les missions secondaires sont super à faire, enfin, du peu que j'ai fait pour le moment, en tout cas, je kiffe. Et ils ont mis un nouveau mode aussi, le mode Breach. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de faire.
Alors moi, fini d'abord la campagne. Enfin, le jeu m'a dit fini d'abord la campagne, donc je vais d'abord finir la campagne.
Pareil.
Moi, j'ai juste lancé pour essayer. Bah, c'est en fait, vous avez fait une mission un peu du même style d'aller s'infiltrer dans un ordi ou pas?
Non.
Et ben, à un moment, tu auras en fait dans le jeu, dans l'histoire principale, une mission un peu en mode Breach.
D'accord.
Et du coup, vous verrez, c'est assez sympa l'esthétique qui est mise dedans. Et voilà, donc pour l'instant, moi, je suis agréablement content d'avoir acheté celui-là par rapport à Human Revolution.
Ok. J'avais déçu. Alors du coup, est-ce qu'on le conseille?
Oui, hein, alors moi, je le conseille 100 fois, au moins pour ce que disait Ferdi, la direction artistique.
Il y a juste un petit défaut, c'est qu'ils avaient beaucoup parlé de la verticalité des décors. On pouvait grimper, tout ça.
Ah bah oui, quand même.
C'est tout à fait possible, quand même.
Ouais, mais c'est limité vachement par rapport à Dishonored ou un truc comme ça.
Après, c'est pas le même but, c'est pas le même jeu.
J'aurais aimé aller sur les toits de plein de bâtiments.
Ouais,
c'était promis.
Tu peux te débrouiller à y arriver. Tu fais les bonnes augmentations, tu
arrives. C'est pas aussi
c'est pas hyper naturel
ah mais c'est pas, il y a rien qui est naturel dans Deus Ex, par exemple pour trouver la bonne entrée sans te faire remarquer par des gardes, c'est jamais naturel.
Oui,
c'est jamais montré avec des flèches genre tiens il y a une autre entrée, tu vois.
Après Après, il y a quand même, je trouve, les incohérences qui retiennent un peu le jeu. Par exemple, moi, je pense que je préfère Dishonored en général. Quand il y a eu, par exemple, Human Revolution et Dishonored qui sont sortis en même temps, et que là, du coup, on a Mankind Divided et Dishonored 2 qui vont sortir à peu, à encore peu d'écart.
C'est vrai, c'est un peu le match.
C'est ça qui est un petit peu rigolo, c'est toujours le match tous les 3 ans.
En fait, là, par contre, c'est une question aussi de feeling de l'ambiance. Ouais. Si t'aimes le cyberpunk ou t'aimes le.
Non, mais moi, je crois que j'aime les deux à niveau égal. Par contre, je trouve que autant le scénario de Dishonored est certes 100 fois moins bien que Dishonored, mais le gameplay est tellement satisfaisant que ça le fait le dépasser. Ouais. Et j'aurais aimé justement avoir peut-être un tout petit peu plus de cohérence dans le gameplay. Par exemple, j'ai une mission où je devais m'infiltrer dans une rave party. Oui. Et pour rentrer, j'avais en gros que deux choix, enfin que j'ai trouvé, il y en a sûrement d'autres. Il y avait soit la porte, à laquelle j'avais pas la carte pour rentrer, et donc il y avait sûrement une quête que j'ai pas trouvée pour trouver la carte. Et je pouvais aussi déplacer un énorme frigo pour entrer par les conduits. Et j'avais pas la bonne augmentation, je pouvais pas déplacer le frigo. Et du coup, j'ai juste fait péter la porte à la grenade. Mais la rêve partie à l'intérieur continuait. Et du coup, il y a vraiment des trucs qui me sortent de l'univers comme ça, alors que Dishonored, vu qu'il y a de la magie, ça justifie 100 fois mieux, je trouve.
C'est vrai.
Et du coup, de Dishonored, j'ai jamais été réellement sorti du gameplay par quelque chose. Alors que Deus Ex, ça arrive assez fréquemment, comme par exemple, voilà, gazer des gardes dans une pièce et que personne ne le remarque.
On rappelle quand même que Deus Ex revient de loin.
Oui, parce par que, contre, dans tous les cas, il faut y jouer, c'est reste un
c'est
très bon jeu.
C'est qui revient de loin et qui a vraiment réussi son retour. Hein,
voilà, moi, tout ce que j'ai à en dire de mal, c'est vraiment des petits trucs de détails.
Okay.
Et en général, il faut y jouer.
Oui, donc, à conseiller,
on le conseille, ça vaut une cinquantaine d'euros à peu près partout.
Moins sur PC.
Un petit peu moins sur PC.
Il y a vraiment moyen,
surtout
sur les cinématiques, de faire un putain de film.
Ouais.
C'est ça que je dis, ça c'est une grosse attente.
On aurait peut-être le temps d'accueillir Professeur Gorfus, je vois qu'il n'est que 25 et qu'on a encore un tout petit peu de temps.
Oui, on peut tenter.
Bah, alors là, si il arrive. Hein.
Et je me casse comme d'habitude. Salut.
C'est peut-être pour ça qu'il vient plus.
Mais le jingle et puis le. Enfin voilà. Salut. Salut.
Ah, ça fait longtemps, professeur.
Bonjour, professeur.
Bah, écoutez, je me suis un peu perdu.
Ah, on a vu ça. Hein.
Est-ce que j'avais pas une musique de fond
elle est en train de se lancer.
C'est toujours nul, cette émission.
Ouais.
Plus vous nul que jamais.
Ah, vous nous manquiez.
Ah, maintenant, fermez vos gueules, c'est à moi. Bonjour à tous, bande d'ignorants du rétro gaming. Je reviens de vacances pour tenter de vous éduquer. Mais avant, est-ce que vous voulez que je vous raconte vite fait mes vacances?
Non.
Alors, j'étais à un colloque sur le sexisme dans le jeu vidéo. Alors, c'était très bien. On était une centaine, les hommes discutaient du sexisme pendant que les femmes faisaient à manger et nous préparaient des petits fours dans la salle d'à côté. Voilà. Une très belle exposition. Ouais. Ensuite, j'ai fait un tour à l'exposition Electronic Arts. Alors ça, mes amis, c'était merveilleux. 25€ l'entrée. L'ascenseur en DLC, donc tous les pauvres ils étaient à côté, ils prenaient les escaliers, d'ailleurs il y a beaucoup de marches. En fait j'ai adoré les artworks de FIFA 2017 qui étaient exposés un petit peu partout, on en voyait 60% et il y avait un monsieur qui te révélait à la suite si tu lui donnais un petit billet, c'était génial. Donc voilà, j'ai même pu assister à un demi-cours de présentation 2-3 complètement foiré. C'est cool.
Ça me paraît être une bonne sortie.
Hey, yeah.
Donc, comme j'ai envie de changer de métier en ce moment, je leur ai laissé un demi-CV, tout simplement. Bref, on va passer à la définition de la semaine, parce que c'est ça que vous attendez, hein.
Ouais.
C'est à non, ça que je sers ici.
Qu'on attend tous.
C'est ça.
Alors, on va en faire qu'une cette semaine, parce que je reviens de vacances, alors faut pas déconner non plus, d'accord. Alors, cette semaine, on va vous parler du terme de cel-shading. Ça vous dit quelque chose?
Oui. Ça n'a rien à voir avec le poivre.
Oui, mais peut-être pas nos auditeurs.
Ah, peut-être pas nos auditeurs.
C'est un méchant Dragon Ball Z.
Le cel shading, appelé aussi toon shade ou ombrage de celluloïde en français, c'est vrai, j'ai vérifié, est une technique artistique appliquée à une texture ou à un modèle 3D qui consiste à faire ressembler la dite texture à un dessin animé en accentuant principalement les ombres et les couleurs. Très marqué en mettant des couleurs flashy qui seront pour le coup bien plus présentes. Donc l'idée derrière ce procédé, vous allez me dire, c'est quoi?
C'est quoi?
Donc l'idée c'est donc de faire ressembler le jeu à une BD ou à un dessin animé, et ce fut un sacré choc artistique pour l'époque. Là en tête comme ça, j'ai des jeux magnifiques comme Zelda Mage, non personne s'en souvient,
non.
Jet Set Radio,
oui,
voilà. C'est un peu mieux.
C'est mieux.
Ou Zelda Wind Waker,
le meilleur jeu du monde.
Après Fallout 4. est-ce que vous avez d'autres idées de jeux en cel shading?
Dragon Quest.
Okami
surtout.
Okami.
Monsieur Tom, vous allez être éliminé, vous avez plus que 3 secondes.
Non, j'ai rien en tête, mais j'en connais plein. Bah, mais je n'ai rien en tête. Killer7.
Killer7.
No More Heroes.
Vous auriez pu citer également 13. Oui, qui était excellent. Qui est un bon jeu Ubisoft.
Rappelez-vous-en. C'est Ubisoft 13.
Eh ben oui.
Décidément, professeur, on en apprend tous les jours.
C'est incroyable. Alors, bah voilà, moi j'ai fini. Je pense que vous avez attendu au moins 5 émissions pour ça. Je pense que vous êtes ravis.
Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour des mauvais jeux cel shading aussi?
On peut faire un tour des
mauvais jeux cel shading est particulièrement spectaculaire.
Alors, on a Cell Damage.
Bikini Samurai Squad, je crois, est en cel shading.
Le dernier Ninja Gaiden, non?
Ah oui, Ninja Gaiden Z.
Oui, c'est ça.
Bien, c'est bien.
Bien dégueulasse.
Est-ce que Guillaume, vous aurez
un mauvais jeu en cel
shading? Merci Guillaume.
Les fous du volant.
Bien de la les fous du volant, effectivement.
Certains jeux DBZ.
Oui, c'est vrai. Bien pourri.
Dragon Ball Super, par exemple. et ben voilà, c'est tout pour moi. Guillaume, on se retrouve toujours ce soir après l'émission pour boire un verre, c'est ça?
Ah bon.
Dans cette boîte.
Ah non.
Rappelle-toi.
Non. Je crois
que t'as pas
on
choix,
était
Guillaume.
Tous en slip la dernière fois.
Ouais, bah sans moi.
D'accord. Ok. Bon.
Alors,
on va pas nager dans une piscine de saucisses tous les deux.
Au revoir, je propose juste qu'on écoute de la musique.
Bon bah merci, à la semaine prochaine.
Au revoir,
salut. Au revoir professeur.
Allez, au revoir, pendant ce temps on va écouter une musique de Dead Rising. Allez, à tout de suite. S'écouter donc une musique de la BO de Dead Rising, le thème de Sean Cannon.
Et on passe tout de suite au thème de la semaine, donc la saga Saints Row.
Ouais.
Une bonne saga, une saga qu'on aime tous ici. Okay, on a tout joué, c'est incroyable, on devient super performant dans cette
émission. Au moins un des épisodes en tout cas.
Au moins un des épisodes.
On devient synchro.
Et on va juste faire ça du coup dans l'ordre et on va commencer tout de suite parler du premier, Ferdi, vas-y.
Alors, à l'époque, édité par le défunt THQ, pensons à lui.
Père hein, son âme.
Voilà. Et sorti en fin d'été 2006, Saints Row est une volonté de THQ d'occuper le terrain du GTA Like sur console nouvelle génération. GTA 4 n'était pas sorti à l'époque.
Il était encore prévu, ouais. On voyait que les premières previews à l'époque de GTA 4.
Tout ce qu'il y avait, c'était GTA San Andreas qui avait trusté les ventes de la PS2 et de la Xbox, qui était le rouleau compresseur.
Est-ce qu'il n'y avait pas Crackdown à l'époque?
Pas encore.
Non, c'est 2007, Crackdown. Okay. Et du coup, le terrain du GTA Like était complètement inoccupé à cette époque.
Sur nouvelle génération. Alors, le jeu est une exclusivité Xbox 360.
Ouais.
Et PC aussi, mais il sortira jamais sur PS3.
Il avait été prévu pendant une époque, mais finalement trop tard, puisque trop près de la sortie du second.
Alors, plus sérieux, il calquait son avancée sur GTA et ajoutait dans le même des choses comme une barre de respect qui permettait de continuer des missions, qui permettait de contrôler des quartiers, d'avoir des bonus, des partenariats avec des vraies marques de vêtements comme celle de Booba, Uncut. Le fait de ne pas jouer un héros prédéterminé, mais de le créer, donc la personnalisation du joueur, donc on crée vraiment un personnage qui c'était nous à part entière, donc on plus loufoque ou plus excentrique, on pouvait jouer une femme.
Entièrement en slip avec des gros seins.
On pouvait jouer une femme, c'est quand même le seul GTA-like pratiquement.
C'est vrai.
Une femme, elle pouvait jouer être l'héroïne. Et surtout, le mode multijoueur en ligne, en coop et en versus,
c'était incroyable pour l'époque.
Et toujours inédit dans un pratiquement dans les GTA Like. Il y a très peu de GTA Like, à part la série Saints Row qui propose dans la partie solo GTA. la campagne solo.
Et puis même dans GTA, effectivement, tu pouvais faire toutes les missions solo, en coop, en ligne, avec un. C'était incroyable.
Alors, vous dirigez les Third Street Saints, les Saints, pour le contrôle de la vie de Stillwater face aux autres bandes de rivales, afin que l'appareil ne précise le synopsis. Alors, la paix, hein, tout est relatif. Alors la couleur des Saints est le violet, comme une réponse au gang du rival du héros de GTA San Andreas, les Ballas. Je sais pas si vous vous souvenez, le héros dans San Andreas c'était CJ, il était habillé en vert et les méchants étaient en violet. C'était un vrai clin d'œil de pouvoir jouer les méchants de GTA, grosso modo.
D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous vous souvenez d'un jeu qui s'appelait Driver 3 à l'époque?
Oui.
On pouvait sortir de son... Non, c'était le 2.
Non, le 3, on pouvait sortir de sa voiture, effectivement, et on pouvait trouver des trucs qu'ils appelaient des Timmy Vermicelli, qui étaient des parodies de Tommy Vercetti et qui se baladaient dans l'eau avec une bouée parce qu'ils savaient pas nager.
Pas nager.
Pour l'anecdote, voilà, je m'en suis rappelé et je trouvais ça absolument génial.
Alors les autres bandes font un clin d'œil au premier GTA en 2D, donc c'est des bandes haut en couleur, avec beaucoup de couleurs, des codes vestimentaires très importants, etc. Donc ça c'est vraiment, tous les Saints Row ont utilisé ce code des bandes bariolées qu'on avait donc dans GTA 1, GTA 2, GTA London, qui a été abandonné un peu dans GTA 3, mais qui a vraiment été abandonné dans les épisodes 3D, pour quelque chose de plus réaliste. Le personnage de Gad qui fait son apparition, donc Gad c'est le premier lieutenant et allié du héros qui apparaît dans tous les Saints Row, c'est un anagramme de GTA, et en fait il incarne vraiment le joueur de GTA typique. Dans son comportement, le personnage est gore, ultra violent, cynique, il a aucune frontière, c'est vraiment comme si en fait on avait un pote qui jouait à GTA à côté de nous, même durant l'émission où il faut juste discuter quoi. Donc c'est vraiment le personnage à contrat.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
Oui. Gap, c'est l'anagramme de GTA, c'est vraiment le clin d'œil quoi.
Est-ce que vous le saviez, messieurs?
Alors moi je connaissais pour le clin d'œil,
ouais.
Par contre pour moi ça s'arrêtait au nom.
Non, c'est vraiment dans la. C'est aussi. Ils l'ont fait
je pense pas, mais.
Non, Guillaume non plus. D'accord.
C'est vraiment dans la posture, dans le truc, tu regardes toutes les cinématiques où il apparaît, c'est vraiment un connard, enfin c'est vraiment un mec.
Ouais.
C'est genre Trevor de GTA.
C'est un gros cinglé, ouais. Voilà. Exactement.
Saint-Trovin, il a fait ça, il a permis des petits trucs nouveaux qui pouvaient se faire différencier de la série.
Il a pas si mal marché, hein, je crois.
Ouais, un million et demi
d'exemplaires, c'est pas mal pour une série qui se
lance. C'était pas fou, mais
c'était le seul, après tout.
Bah, puis il y avait la hype de. Fallait quelque chose pour atteindre GTA 4.
Exactement.
C'est très intelligent.
Exactement. Alors, on va passer à Saints Row 2 et on va changer la musique de fou.
Ouais.
Bien plus sympa.
Voilà.
Alors, Saints Row 2, il est sorti du coup en 2008, soit 2 ans après le premier. Est-ce que GTA 4 était sorti à cette époque? Oui, je crois.
Oui.
Il était sorti depuis pas longtemps. Donc là, c'est vraiment le moment où Saints Row était un petit peu dans la merde. Il essayait un petit peu de copier son rival sans arriver à se démarquer. C'est un peu le dernier épisode avant la scission de laquelle on parlera juste après. Donc cette fois, vous allez devoir faire des alliances avec les autres gangs pour reprendre votre ville chérie. Il y a toujours la campagne solo jouable en coop, mais je crois avec plus de personnes, hein, je crois que c'était jusqu'à 4 cette fois. Donc c'est quelque chose que GTA V ne fait toujours pas, hein, même maintenant.
Par contre, GTA V, si on peut en parler un peu, fait quand même un des meilleurs online du monde. Hein.
On est d'accord.
Donc,
on est d'accord.
Là, on est en train de cracher dessus, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même une campagne multijoueur scénarisée. Ce que propose quasiment aucun autre GTA.
Qui
propose un truc totalement.
Mais voilà, à l'époque, c'était nous.
Alors, c'est un jeu qui est très très axé dans une ambiance gangsta rap, donc vous l'entendez avec la musique de fond. Teinté d'humour noir, parce que c'était plutôt l'époque avant les godemichés et les chats qui volent.
Avec une campagne vraiment sérieuse. Enfin,
très sérieuse.
Très sérieuse, mais c'était tout le reste du jeu qui était complètement débile. Quoi. C'était toutes les missions annexes qui apportaient le brin de folie.
Je me souviens de camions de pompiers qui lançaient du caca.
Alors, exactement, ça s'appelait Vidange Man. Le joueur conduit un camion rempli de matière fécale et asperge les bâtiments privés et publics afin qu'ils soient dévalués et qu'ils valent moins cher au rachat. Dans un autre style, on avait des choses qui s'appelaient par exemple Traînée Ardente. C'est une mission qui consiste à conduire un quad enflammé vêtu d'une combinaison inifugée et à incendier un maximum de véhicules et de civils.
C'est
quand même trop la classe.
C'est complètement débile, quoi. C'était des cheat codes de GTA en fait.
Ouais.
C'était ça, quoi.
Donc on faisait augmenter sa prime, plus il se faisait mal, plus ça nous rapportait d'argent, hein, c'est ça.
Plus tu faisais de dégâts. Ouais.
C'est ça. L'envoyer contre un métro lancé à toute vitesse, par exemple, contre des lames aiguisées d'un broyeur sous la pelle prête à tomber d'un tractopelle, vous fera plus rapidement votre cagnotte. Donc c'était ce genre de mission
Une mission complètement débile, ultra humorale. Enfin, c'était des modes carnage qu'on a dans les GTA actuels.
Ou rappelle un petit peu le mode crash de Burnout aussi.
Oui, voilà, c'était ça. C'était les modes débiles des autres jeux. Ouais. Mais eux, ils en avaient. Même sans la cohérence, ils le mettaient.
Du coup, c'était un jeu étrange au scénario très. Très sérieux.
Très sérieux, ouais. Sérieux.
Plutôt sérieux avec des missions complètement débiles.
Ouais.
Et c'est là où on se dit qu'il y a peut-être un changement qui commence à s'opérer.
C'est ça, oui. Le 1, il n'y avait pas des missions annexes, c'était plus classique. Donc là, c'était vraiment.
Au final, moi j'entends surtout parler justement de. Quand on parle de cette série, on me dit souvent que le 2 c'est le meilleur. Je pense que c'est parce qu'il savait être débile sur les missions annexes, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un jeu sérieux si on voulait, et on pouvait avoir un jeu débile si on voulait.
Ouais. C'est
à dire que t'invites un pote juste pour faire le con, tu fais plutôt les missions annexes. Alors que si t'es tout seul, tu vas plutôt avoir envie de faire quelque chose de sérieux.
Alors pour l'anecdote, on noterait une édition collector assez fun, donc elle incluait bien sûr le jeu, hein, parce qu'il y en a qui ne le font pas encore aujourd'hui, hein, Mirror Edge, hein, si tu veux. Elle inclut donc le jeu Saints Row 2, une boîte de collectionneur en carton et plastique, un espèce de moule de pistolet doré, façon gangsta rap, hein, un poster exclusif, un artbook, un clip d'argent en métal et une clé USB en forme de balle.
Oui,
de balle
de revolver.
Ouais, c'est ça, qui contient des bonus, des goodies, des papiers peints, des vidéos, des avatars et c'était vraiment un pack super classe.
Oui, oui.
Vraiment.
C'est, alors, tu parlais, c'est sympa, c'est très bien vendu. Quoi.
Lui, c'est très bien vendu par
contre. Vraiment.
Ouais, on le voyait partout.
Alors, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est Volition.
C'est Volition.
Voilà, donc le studio à la base qui était THQ,
comme éditeur.
Voilà, qui était un poulain d'idée de THQ.
Exactement. Du coup, on va passer au troisième qui est, je crois, un petit peu le préféré de tout le monde ici.
Bah, moi, en fait, au sens où j'ai fait que le 3, c'est mon préféré.
Ouais, moi, c'est mon préféré de la série de saga aussi. Avec donc, la musique là, qu'on entend en Power de Kanye West. J'aime pas Kanye West, mais cette musique là colle tellement.
J'avoue, ça va très très bien. Alors, qui peut nous en parler un petit peu de Saints Row 3 ?
Eh ben, je pense que ça va être moi, puisque je n'ai fait quasiment vraiment que celui-là. En gros, Saints Row 3, c'est vraiment complètement différent du 1 et du 2. Moi, je sais que le 1 et le 2, je les avais pas achetés, malgré que j'ai eu la Xbox 360 et pas de PC à l'époque. J'étais encore un tout petit poussin. À ce moment-là, vraiment, l'ambiance justement gangsta rap de Saints Row 1 et 2 me plaisait pas trop. Et en voyant donc les trailers du 3, je me suis dit, mince, en fait, ils sont partis complètement en version humoristique. C'est-à-dire que on change de ville, on change complètement d'ambiance, et c'est quasiment devenu un cartoon, en fait.
C'est ça.
Voilà, et donc vraiment dans celui-là, le but c'est de se construire de nouveau, reconstruire l'empire des Saints, mais tout est bon en fait. Et donc là par exemple, on a un gang qui est constitué uniquement de luchadores, c'est vraiment très très stupide. Et tout est débile.
Tout est débile, voilà. Ouais, on est d'accord.
De la mission d'intro, justement, où on s'accroche à un coffre de la banque de Stillwater, je crois.
La première mission la plus épique.
Ah, c'était épique. Ah ouais.
Voilà, où il fallait justement sauter d'un avion en parachute.
Pour aller dans un autre avion.
Pour aller dans un autre avion. Enfin voilà, c'était vraiment très 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 débile, mais dans l'action, toujours dans l'action,
complètement.
Et en essayant de garder deux trois petits moments un peu sérieux, qui selon moi tombaient complètement à l'eau. Mais le jeu était quand même quasiment à l'unanimité un bon jeu.
Ah, il est excellent, tout le monde l'adore, Guillaume l'adore.
Ouais. Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à l'adorer, mais je vais peut-être vous laisser d'abord la parole pour que vous disiez ce que vous en pensez.
Alors, je vais laisser la parole à Guillaume, parce que je crois que c'est aussi son préféré.
Ouais, mais enfin, c'est parce que moi, je suis pas un grand. J'ai pas joué beaucoup à la licence intro, et du coup, bah, moi, j'avais vu moins 2, et le 1, je ne connaissais même pas. J'ai joué du coup au 3 et au 4.
Ouais.
Et c'est vrai que dans le peu que j'ai joué du coup des Saints Row, c'est le 3 qui me paraissait le plus sympa, le plus fun, le plus jouissif. Peut-être après le 4 était moins bon à cause d'un temps de développement plus moindre. Hein,
on en reparlera après.
Mais ouais. Le 3, même bah, dans son design, enfin complètement fou. En plus, quand t'as tous les décès, c'est encore mieux parce que t'as des simulations, des véhicules fous, enfin voilà. Et ouais, c'est ce déclic de se dire qu'ils ont réussi à dire ouais, GTA, on peut pas faire comme eux, on va faire complètement à côté de la plaque. Enfin,
on fait un autre délire et on essaie.
Et c'est justement ça, c'est super cohérent et c'est rigolo. Ouais, les missions sont méga fun, on fait pas ça dans un GTA.
On peut citer des missions comme.
Les arcades.
Un moment, on se réveille dans une maison sadomaso.
Oui,
je crois que c'est ça.
On s'y réveille pas, on s'y rend pour aller sauver quelqu'un.
On s'y rend, je crois qu'on finit en slip avec une course de chars avec des esclaves.
De chars traînés par des esclaves.
De chars traînés par des esclaves et on se bat à coups de godemichés géants contre des gens habillés en cuir.
Et qui font aussi la course avec des chars.
Et qui font aussi la course avec des chars.
Voilà.
Je crois qu'il y a un mec qui nous suit qui a tout le temps un vocodeur sur lui.
C'est cette personne-là qu'on sauve en fait.
Il y a de nombreux personnages de la série de là qui sont. Il n'y a pas un personnage secondaire qui est pas.
Les personnages sont pour la plupart très faibles. Et toi, du coup ?
Moi, c'est un de mes jeux favoris. Tout simplement dans le top 10 de mes jeux favoris. Parce qu'en fait, je sentais que GTA 4, je n'avais pas du tout aimé.
D'accord.
Et avec un pote, en fait, on lance le jeu et on l'a fait en 3 jours.
Ok.
Et on se disait, chaque mission, on disait, oh putain, c'est une mission finale de GTA. Ça veut dire que ça avait le fun, mais
oui.
De folie d'une mission.
Je
finale.
Vois.
Et ça avait, en fait, le jeu nous a rendu fou, en fait, qu'on appuyait sur son appel le bouton à la con. Tu peux donner des coups de poing pour voler des voitures, mais si tu appuies sur le bout de la gâchette, tu rentres dans la voiture en vol plané et tu faisais des prises de cash. Donc tout le jeu en fait est basé là-dessus, c'est le bouton à la con ou la truc à la con qui te rajoute une mission normale lambda d'un jeu GTA like devient complètement dingue.
C'est vrai qu'ils avaient soigné ces petits détails, par exemple, au lieu de voler une voiture, c'est-à-dire sortir le mec de son truc et tout, tu faisais une prise de judo et tu explosais la vie.
Voilà, explosais de façon graphique les parties.
Ok.
Moi, je vais parler un petit peu des défauts du jeu, parce qu'en fait, c'est un jeu que j'aime bien, mais que je trouve qu'il comporte pas mal de défauts qui je trouve font que le jeu ne restera pas si longtemps que ça dans les annales. Restera en tant que jeu fun, mais pas en tant que jeu excellent. Par exemple, je trouve que la progression est très inégale. C'est-à-dire que les missions principales sont très très fun, avec pas mal de mise en scène, etc. Par contre, les missions secondaires sont assez peu nombreuses dans leur diversité et en plus assez répétitives. C'est-à-dire que, par exemple, les missions fraude à l'assurance, où du coup il faut se faire le plus mal possible, donc c'est très très fun.
Moi, j'aimais bien.
Mais néanmoins, il va rien y avoir de spécial. C'est-à-dire que ça va être juste à différents endroits, essayer de vous faire le plus mal possible, avec rien autour.
J'aimais bien les missions pelote de laine, moi, géante.
Qu'est-ce que c'était ça déjà ?
C'était dans les DLC.
Je n'avais pas ce DLC là.
Ah bah les DLC en fait, tu avais une pelote de laine géante et tu devais, je crois, écraser des gens.
Un petit peu comme Katamari quoi.
C'est un peu ça.
Okay. Juste pour exemple, là on parle du professeur Genki, c'est un personnage qu'ils ont incorporé dans le jeu qui est un mec avec une tenue, avec une tête de chat
grosse
géante.
Grosse tête de chat géante, kawaii, effectivement.
Et qui représente tout ce que le Japon fait de mieux, donc savoir la télé-réalité et les meurtres brutales avec des tentacules, etc. Donc c'est vraiment. Faut imaginer en fait qu'ils vous ramènent dans des pièges ou des missions qui fleurent le Japon avec des têtes de chats géantes.
Et de la musique,
Musique pop, complètement psychédélique. Voilà.
Ah, je m'en souviens, ça c'était.
Et pour moi, c'était justement un de ces défauts. C'était que la progression était un petit peu erratique, ou vraiment avec des moments où c'était à fond dedans et des moments où c'était un petit peu bof. Je me rappelle par exemple du moment où on doit se taper contre les luchadores et on attend un match sur un ring en fait. Le monsieur nous a défié à un match et avant ça, il y a bien une heure ou deux de gameplay où il se passe pas grand chose, où justement on refait des petites missions nulles, où il faut aller chercher un tuk-tuk à l'autre bout de la ville, etc.
D'accord.
Et de moments où, en attendant les missions principales qui sont en fait en assez peu grand nombre, je crois qu'il doit y en avoir une vingtaine en tout, en fait il faut les débloquer en faisant d'autres missions annexes qui sont pas top.
D'accord.
Et qui du coup deviennent pas vraiment annexes en fait. Et ça j'ai pas trop aimé. Par contre, dans les choses que moi j'ai bien aimé.
Quêtes secondaires.
Excuse-moi, oui, la répétitivité des quêtes secondaires en général. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la montée en puissance. C'est-à-dire que vraiment, au début, on commence, on galère à acheter un deuxième flingue, et voilà, à la fin, on galère à acheter des centrales nucléaires.
L'armement est complètement débile, hein, entre les tirs de roquettes du ciel, le gant qui détruit les ennemis en un coup, etc.
Mais c'est vrai que le 100% est un peu chiant sur la fin.
Ouais, on peut comprendre.
Le scénario me fascine.
C'est un jeu c'est marqué fun en gros. Et je crois que c'est le jeu qui
tient sa promesse de toute façon. Voilà.
Et moi je pense que c'est vraiment un très bon jeu à faire justement comme toi tu l'as fait sur un canapé avec quelqu'un.
Avec un pote ou deux.
Et là c'est impeccable.
Et tu te marres, tu passes la manette ou tu joues en com avec un pote.
Et voilà, c'est parfait.
Et ben on va passer à ça.
Juste par la petite anecdote, donc THQ annoncera un Poisson d'Avril qui s'appelait Hunters the Dominatrix parmi les DLC, qui était normalement un DLC prévu pour cette intro qui a été annulé à cause des déboires qu'ont eu THQ.
Qui a coulé. Hein.
Qui commence à couler. Ça deviendra un standalone et ça deviendra Saints Row 4. T'as vu, je fais la transition.
Waouh, incroyable.
Waouh.
Alors, est-ce que tu aurais une petite musique de fond pour Saints Row 4?
Ouais, c'est ce que j'étais en train d'attendre la fin de ces explications.
On fait pas de pause, hein, on enchaîne tout. C'est très bien. Alors, Saints Row 4 a été un jeu un petit peu compliqué pour THQ. Il arrivait sur la fin de vie de l'éditeur et ça se sentait puisque c'était vraiment les fins de moyens. Ils ont voulu faire plus grand, plus fort, plus incroyable que Saints Row 3, pardon.
C'est surtout un DLC, un très gros DLC.
C'est
un métro.
Exactement. Ah, cette musique.
Ouais.
Ah, bravo.
Des musiques de la radio.
Alors, il faut par contre mettre vraiment sur un podium les musiques de auxquelles j'ai joué de Saints Row 3 et 4.
Ah ouais.
Qui ont toujours été très bien choisies. Et surtout.
La radio classique de Saints Row 3, par exemple.
Voilà, la radio classique ou le moment justement de la fin de Saints Row 3, on a le choix entre sauver quelqu'un ou pas. Et sur Bonnie Tyler, sur I Need a Hero, qui du coup donne une toute autre dimension au jeu.
Ou sur What Is Love aussi.
Voilà, il y a dans Saints Row 4, il y a une séquence de fuite en vaisseau spatial sur What Is Love, qui est vraiment bidonnante.
Il faut vraiment parler, les Saints Row, leurs BO sont excellents. C'est vraiment, ils ont calqué, ils ont pris ce qu'il y avait un très bon truc des GTA, ils ont dit on va faire pareil, on va mettre des bonnes BO, un peu décalées, mais des vraies BO. Quoi.
Et là où justement GTA fait des musiques originales pour ses mises en scène, Saints Row utilise quand même
des gros tubes pop
pour ses mises en scène, et ça marche extrêmement bien dans 90% des cas en fait.
C'est ça.
D'ailleurs, j'ai téléchargé la BO de Saints Row 4 qui tient quand même sur 8 CD, 160 chansons, qui est absolument énorme. Donc écoutez-la, franchement, c'est. Qu'est-ce qui se passe dans Saints Row 4 du coup?
Alors,
on est président de la Terre.
Il se passe n'importe quoi.
Moi, je peux vous en parler parce que c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. Parce que je connaissais sûrement les. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je joue sur une mission qui se moque de Metal Gear Solid et Call of Duty. Le chef des Saints devient président des États-Unis après en réussissant cette mission. Avec à la fin un missile, en s'accrochant à la fin sur un missile qui va péter.
Là, c'est très Just Cause pour le coup.
Donc, avec le même truc, oui, patron, vous allez y arriver, etc. Donc, c'est vraiment dans une parodie. Dès le début, on comprend qu'on est dans une parodie de jeu vidéo et qu'on va être dans une parodie de film. C'est-à-dire qu'au lieu du 3 qui est une parodie de jeu vidéo pure et de GTA, là on est élargi à toute une pop culture.
On est d'accord que le début est épique, où tu es président et que tu te balades et que quelqu'un te demande un autographe et que tu peux lui foutre une tarte.
Et tu signes tu signes et
les extraterrestres commencent à débarquer. C'est n'importe quoi. C'est absolument génial. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce GTA?
Alors, t'en finis. Vas-y. L'invasion a lieu et vous êtes enlevé. Et là, au lieu d'être transporté dans un Steelport, vous êtes dans une version virtuelle de Steelport. Donc, comme Matrix. Et vous avez en fait deux passes. Soit vous êtes dans votre vaisseau, qui est dans l'espace, soit vous êtes dans le monde virtuel à la Matrix.
C'est ça.
Ce qui justifie en fait là l'utilisation, comme Neo dans Matrix, l'utilisation de pouvoir. On vole, on va très vite, on est super fort. Les armes deviennent inutiles.
Complètement.
Alors, les véhicules aussi deviennent
inutiles. Les véhicules très vite, les véhicules.
Que t'as un armement, du coup, de racheter quand un générateur de trous noirs, générateur de disques.
Le fameux dubstep gun aussi.
Voilà.
Ouais.
Donc oui. Et le 4, en fait, donc beaucoup de films, il y a deux choses, c'est Mass Effect. C'est une parodie de Mass Effect avec le vaisseau spatial, les sons sexuels avec l'équipage.
Effectivement.
Qui sont totalement faites. Matrix avec le truc. Et un autre, ça, je tiens beaucoup à en parler, ça reprend The Light, Invention of the Jets de John Carpenter. C'est un film en fait où des aliens contrôlent notre monde grâce à des messages subliminaux derrière les pubs, la télé, etc. Donc les messages obéis qu'on voit dans le jeu où il y a marqué sur tous les trucs. Donc ça je tiens à le dire. D'ailleurs les deux acteurs principaux, Cass David qui joue son propre rôle et le catcheur Roddy Piper sont présents dans le jeu. Voilà. Okay. Je tiens vraiment à le dire parce que c'est une référence que peu de gens connaissent et qui est vraiment pas. Il y a même une mission vraiment qui on refait une scène du jeu. Voilà.
Alors, le problème de ce Saints Row, c'est peut-être que ce n'est plus un GTA,
non,
mais qui se rapprocherait plutôt d'un Crackdown.
Ou d'un prototype.
D'un prototype alors, de chez
moi, en fait, celui-là, je ne l'ai pas aimé. Du D'accord. tout. Je trouve qu'il a beaucoup de choses pour lui, mais en fait, les quelques choses qu'il n'a pas pour lui m'ont empêché de l'apprécier. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, le principal défaut, c'est ce que tu disais, Julien, tout à l'heure, c'était qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un jeu qui se raconte plus que qui ne se joue. Mm. C'est-à-dire que voilà, pour moi, c'est vraiment le jeu genre trop marrant, on peut mettre une claque à un journaliste. Pour moi, ça, c'est pas du gameplay. C'est vraiment oui, un truc. En fait, pour moi, vraiment, le jeu qui est censé être un open world et donc dans lequel on est censé avoir sa propre expérience, pour moi, c'est un jeu où l'expérience d'un joueur à l'autre est toujours la même. Mm. Et ça, vraiment, ça m'a empêché justement de l'apprécier parce que vu que les véhicules servent à rien, on peut pas, par exemple, faire son jeu avec son véhicule préféré puisqu'on peut très vite voler, en fait, dans le jeu.
C'est une autre vision.
Tout le monde va voler. Pareil, le corps à corps qui tue tout le monde en un coup est tellement puissant que du coup, on n'a pas besoin des armes.
C'est vrai.
Et en fait, pour moi, justement, ces défauts-là du jeu m'ont empêché de l'apprécier comme il faut apprécier un open world, en fait, comme il faut apprécier un jeu de la façon dont on veut.
Le vrai gros problème pour moi de Saints Row, c'est qu'il en fait peut-être un peu trop. C'est qu'il en fait trop et qu'il veut trop nous dire, voilà, je suis marrant, aimez-moi,
oui, voilà.
regardez-moi,
comme je suis marrant,
regardez comme je suis fun. Là où Saints Row 3 le faisait finalement avec un peu de finesse.
Un tout petit peu. Hein,
un petit pas, peu quand même, faut pas déconner, mais le faisait intelligemment.
Voilà, et je trouve que Saints Row 4 n'a quasiment plus aucune progression, c'est-à-dire qu'on débloque les pouvoirs au fur et à mesure quand même.
Assez vite
hein, mais quand même au fur et à mesure. Mais en fait, la montée en puissance, par exemple le fait de voler dans un jeu, normalement c'est censé être, dans un open world, à la GTA, c'est censé être la récompense ultime.
Vous pouvez sauter, on rappelle, hein, très très haut, voilà. Voler, planer, envoyer des mecs à 10 km de distance.
Dans quasiment tous les open worlds, par exemple, San Andreas, on pouvait voler avec le jetpack qui était vraiment très 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 bien caché. Dans GTA V, on rappelle que le jetpack est encore vraiment encore un mythe, voilà, un mystère, on ne sait pas où il est. Dans GTA V, on débloque très très vite, enfin très très tardivement les avions. Mm. On peut en prendre plein d'autres. Hein. Prototype, on ne vole pas avant un bail, encore on plane.
C'est vrai.
Ouais. Et c'était pourtant un jeu où justement on avait envie d'être puissant. On est très puissant dans
Prototype.
Ouais, on peut parler aussi de Infamous, où dans Infamous on ne vole jamais, on plane.
C'est vrai.
Et là dans celui-là, ils ont vraiment fait le choix de donner une liberté aux joueurs, mais beaucoup trop tôt. Ouais. Et ça pour moi, c'est un énorme défaut du jeu qui fait qu'on. En fait, il y a plein d'autres trucs qui sont là, comme par exemple l'arsenal qui est gigantesque, on ne s'en sert jamais.
Très peu, effectivement.
Voilà. Donc voilà,
oui. Et bah, du coup, on va s'arrêter là pour Saints Row 4. On va enchaîner vite fait avec les derniers petits pour avoir le temps de faire le quiz. Vas-y, fais un petit résumé.
Il y a Saints Row God of Hell qui est sorti, qui est un mini DLC, mini histoire, qui est un jeu petit prix, qui raconte l'histoire de Gad qui est en enfer, qui doit sauver le boss des mains de Satan. Donc c'est un mini jeu très court. Très rigolo. Le prix vaut le jeu, et donc avec des armes basées sur les péchés capitaux. Autre annonce, il y a Agent of Mayan, donc leur prochain jeu qu'ils annoncent qui est dans l'univers Saints Row, mais qui sera un jeu en monde ouvert, TPS en monde ouvert avec un escouade, façon Overwatch, qui lorne vers ces jeux-là. Et un film, donc les rumeurs sont de plus en plus précises, avec The Rock en tant qu'acteur. Voilà.
Ok. Et bah du coup on va enchaîner, hein, parce qu'on
est,
il nous reste plus beaucoup de temps.
Le quiz pour finir.
Avec le quiz, le petit jingle qui va bien. Celui est très bien, merci.
Allez, vas-y, go, on est prêt.
J'adore les quiz.
Vous adorez les quiz?
Vas-y, quiz.
Quiz pour le quiz.
Allez, vas-y.
Alors, on va peut-être faire des équipes vu qu'on a d'autres invités. Est-ce que nos invités veulent jouer avec un de nos chroniqueurs?
Alors attendez, je vais passer le micro à notre groupie numéro 1.
Je suis pas sûr d'être une aide, mais pourquoi pas.
Alors, et qui veux-tu faire équipe?
Avec Tom.
Avec Tom, très
oui,
bien.
Ça sera peut-être plus simple pour les micros.
Je suis sûr de gagner.
Et pour notre deuxième groupie, avec qui veux-tu être?
Avec Ferdi.
Avec Ferdi, très
c'est
bien.
Guillaume, toi tu seras avec ta console.
Et ben voilà, et ben je vous laisse rejoindre vos chroniqueurs et je commence les questions juste après.
D'accord,
vas-y,
bah
vas-y.
Donc... une petite musique de fond, c'est parfait. Et le thème cette semaine, c'est les compagnons dans les jeux vidéo qui accompagnent. Voilà. Alors, on commence avec la première question qui vaut 3 points. Quel est le compagnon d'Atlas dans Portal 2 ?
Tom Peabody.
Oui, 3 points pour Tom, ça commence bien. Alors, qui accompagne Clémentine dans The Walking Dead saison 1 ?
Ah mince, comment il s'appelle ce couillon?
Bah c'est le Black, je sais plus comment ça s'appelle.
Un Black.
un Black, tu as 0-1 point, c'est bien.
Non, je sais pas
Alors,
non, on peut passer à la question suivante, c'est hyper gênant.
C'est vraiment gênant.
Jordan, non?
Non, ah, c'est un peu raciste ce que tu fais quand même.
Michael,
non.
Non, je sais plus.
Plus personne, il s'appelle Lee Everett.
Ah, c'est vrai, Lee.
Personne n'a de points. Pour 2 points, qui accompagne Ico?
Tom Yorda.
Oui, ça te fait 5 points. Alors attention, il y a peut-être un piège, qui est le compagnon de Mario? Attends, Tom, Luigi, non, ce n'est pas ça. Oui, Yoshi.
Ça aurait pu être Sonic.
Puisque Luigi est son acolyte et pas son compagnon. Question numéro 5. Qui accompagne Link dans Minish Cap?
Ça, c'est pour Guillaume.
Ah, j'ai plus son nom.
Moi, je dis rien. C'est pour Guillaume.
Allez, Guillaume.
J'ai plus le nom du.
Ça commence par un E. Allez, on va te l'offrir.
J'ai plus le nom.
Eh ben non. Alors, qui va répondre?
Moi, si ça commence par un E, j'ai oublié. C'est pour toi.
Tout le monde a oublié.
Alors, je tiens à dire que Ferdi, qui ne se rappelle pas de la réponse, a un t-shirt Zelda actuellement.
C'est vrai.
Ah, il a un nom stupide, c'est genre chapeau à l'envers.
Il s'appelle Excello.
Ouais, Excello.
Excello. On va donner les points à Guillaume. Alors, pour 4 points, qui accompagne Monkey dans Enslaved?
C'est pas Tara ou quelque chose comme
c'est
ça?
C'est pas loin. Non.
Neuf, là,
il y a un A.
Ah non, il n'y a pas de A, désolé.
Il n'y a pas de A? Ah, c'est un nom stupide.
Vous avez oublié? C'est en 4 lettres. Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. Mmh. Ça commence par un T, effectivement.
Thierry.
Tara. Non, je crois que personne là. Hein.
Quand vous fumez trop de drogue, qu'est-ce que vous faites?
Un cancer.
Pas loin. Bon, elle s'appelait Trip. Voilà. Question 7 pour 2 points. Qui accompagne principalement Nathan Drake dans ses 3 premières aventures?
Tom, Sully.
Oui, mais j'aimerais. Oui, mais j'aimerais bien son prénom.
Bah, Sully.
Son nom et son prénom.
Ah, oh. Non, je fais que le 2, donc voilà.
Personne.
Sully. J'ai pas le nom.
Victor Sullivan.
Ah, c'est Victor.
Mais je te l'accorde. Question numéro 8 pour 3 points. Qui accompagne Léon S. Kennedy dans Resident Evil 4?
Faut dire le nom.
Ah non, c'est pas ça.
Non, c'est comment elle s'appelle?
La fille du président.
La fille.
Ashley.
Et bah, c'est pour toi, 3 points. Ça souffle un peu dans mon casque.
Oui, un maximum. Qui fait du vent dans les casques?
C'est pas moi.
C'est la Bretagne, c'est ça?
Ouais.
Elle s'appelait Ashley Graham, si vous voulez. Si vous voulez tous les détails. Vous vous rappelez, il fallait... Léon, sauve-moi.
Il fallait la mettre dans des bennes à ordures.
Question numéro 9 pour 4 points. Qui est l'associé de Fargus dans Pandemonium?
Oh là là.
Oh là là, c'est dur.
C'est une fille.
Ouais, c'est une fille, mais comment ça s'appelle?
J'ai pas joué à
Elle est rousse.
Manière, je me rappelle que c'est une fille.
Elle est
blonde avec des... C'est la meuf qui a le double saut.
C'est voilà. Ça. Personne. N. Elle s'appelait Nikki.
Nikki.
Qui est le compagnon de Dust dans Dust and Elysian Tale? La petite fée.
Oui. Ah, ça pourrait être son épée aussi. Est-ce que ça compte un peu quand même?
Oui, ça compte.
Comment elle s'appelle, la petite? Tails. Parce qu'elle est orange, elle a une queue.
Allez, c'est pas loin, c'est Fidget.
Fidget. Fidget the Midget.
En effet, c'est pas loin.
Qui vous accompagne dans Borderlands parfois, mais surtout au début?
Claptrap.
Oui, bah voilà, tout simplement.
Allez.
Et plus que 2 questions et on a terminé. C'était 3 des 5 compagnons qui suivent Vice dans Skies of Arcadia au cours de son aventure.
Oh, mais t'es horrible, Skies
oui,
of
je
Arcadia.
Sais.
Il y a la fille avec ses couettes oranges.
Allez, c'est ça.
Ça
c'est
fait ça. Un.
Donnez des idées clichés de perso de RPG.
J'ai pas joué à Skies of Arcadia. Je suis un monstre.
Oui. Bon, en gros, il y en a plein. Il y a Ike, Afina, Drakmag, Lilder et Enrique.
Ah, j'aurais dû m'en souvenir.
Et enfin, le dernier, qui accompagne Gordon Freeman dans Half-Life 2?
Personne.
Ça, son arme, là, son...
Son pied de biche.
Non,
biche.
La nana qui l'accompagne, comment elle s'appelle?
Ah oui. Il y a un E. Je crois qu'il y a un E. Est-ce qu'il y a un E?
Pas du tout.
Et je suis meilleur pour avoir les lettres qui sont pas dans le nom, vous avez remarqué?
Eh ben, vous avez été tous nuls, c'était Alix Vince.
Alix.
Okay.
Voilà, et c'est Tom qui a gagné, je crois, oui, de pas beaucoup. Et ben voilà, c'est déjà la fin de l'émission, on est un petit peu en retard, on vous remercie de nous avoir écoutés.
On vous aime,
on vous dit à dans 15 jours, et puis on vous annonce tout ça sur les réseaux sociaux.
Des bisous.
Les bisous.
Bonne soirée, à bientôt, bisous.
À bientôt.